Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Coup de projecteur ce matin sur la belle question du don. Donner, recevoir, rendre, voici la triple obligation traditionnelle du don. Nous verrons pourquoi la loi du don structure tous les pans de notre société et notre rapport aux autres. Quels sont les paradoxes du don, puisqu'il s'agit de loi et d'obligation, alors que le don est intuitivement réputé gratuit et sans retour. Pourquoi donne-t-on ? Par sacrifice, par devoir, par intérêt, pour être reconnu ou encore pour le plaisir? Quelle satisfaction psychologique retire-t-on en donnant? Pourquoi certains n'aiment pas donner et même méprisent cette faculté humaine? Et puis, nous explorerons différents domaines du don, comme celui assez inattendu du jeu. Nous recevons ce matin le sociologue Alain Caillé et le psychiatre François Lelore. Et ma complice ce matin, c'est Guillemette Audicino. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Alain Caillé, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur de sociologie émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre. Vous avez créé et vous animez la revue du MOS, référence évidemment au célèbre sociologue Marcel MOS qui publia en 1925 l'essai sur le don. Et vous publiez Extension du domaine du don chez Actes Sud. Le titre, c'est une référence au grand roman de Houellebecq, Extension du domaine de la lutte.
Oui, bien sûr, il y a un clin d'œil qui, à mon avis, n'est pas totalement gratuit, parce que l'extension du domaine de la lutte, si on remplace lutte par don, ça peut paraître surprenant au départ. Mais ce que Mauss découvre dans l'essai sur le don, c'est, enfin, en tout cas, ce qu'il décrit, c'est des formes de dons qu'il appelle des dons agonistiques, c'est-à-dire des manières de rivaliser par le don, et c'est presque des formes de guerre, transformer les ennemis en amis, en rivalisant de générosité.
Bonjour François Lelore.
Bonjour Ali.
Vous êtes un habitué de l'émission, vous êtes psychiatre et Odile Jacob réédite dans une belle version collector l'estime de soi que vous avez écrit avec notre ami Christophe André. Alors Alain Caillé, le mot don est chargé de sens multiples, d'ambiguïté, d'ambivalence et d'incertitude, écrivez-vous dans l'introduction de votre livre. En français, on peut donner une infinité de choses. On peut donner une bague de fiançailles, un coup de poing, on peut donner la vie, la mort, on peut donner un coup de main, on peut donner de sa personne, donner de l'espoir, donner une pièce de monnaie à un mendiant, donner du temps à une association. Polysémie du mot don en français.
Oui, c'est ce qui fait que le mot don est presque aussi central en français que les mots être ou avoir. C'est un mot absolument général. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas vrai dans toutes les langues. Par exemple, mes amis turcs savent pas comment traduire le mot don. Le mot, il n'y a pas d'équivalent. Et ça serait vrai, je pense, dans beaucoup de langues. Et pourtant, ces pratiques de don, elles sont véritablement universelles. On les trouve un peu partout. Donc, on a d'entrée de jeu un problème si on veut parler du don. Le mot n'est pas universel, on ne trouve pas partout, même si des pratiques qui, pour nous, rentrent sous le domaine du don sont universelles. Et puis, en plus, la grande difficulté, c'est que quand on parle du don, on a immédiatement en tête 2000 ans de tradition chrétienne. C'est-à-dire, le don, ça veut dire nécessairement la charité, l'amour totalement gratuit, le désintéressement radical. Et on a l'impression que s'il n'y a pas cette gratuité absolue, ce désintéressement radical, alors c'est pas vraiment du don. Et il y a toute une série de débats philosophiques qui s'enclenchent à partir de là et qui rendent la discussion compliquée, alors que pourtant, ces pratiques de don sont absolument centrales dans notre existence.
Guillemette Audicino.
C'est drôle ce que vous dites, parce que même le côté, disons, un peu mystique de la chose, il y a aussi l'autre appel, enfin, il y a l'autre manière de dire le mot, avoir un don.
Oui, absolument.
Comme si on avait reçu une grâce divine, oui, les gens vont se dire, ah là là, il a un don.
Bien sûr, bien sûr.
Et ça vient de nulle part. On a l'impression que c'est le ciel qui a envoyé quelque chose. Donc ça revient toujours à quelque chose d'assez religieux, finalement.
Alors, il y a un très beau livre écrit par un poète philosophe américain qui s'appelle Lewis Hyde. Le livre s'appelle Le Don, The Gift, avec un sous-titre assez étrange qui s'appelle La vie érotique de la marchandise. Et bon, c'est un peu bizarre, mais il a très bien lu Marcel Mauss, et c'est sur le don, et il essaie d'expliquer que l'artiste, dans le sens traditionnel de la vie artistique, fonctionne comme s'il avait reçu un don, de la même manière que le faisaient les peuples archaïques, lorsqu'ils ont reçu un don. C'est-à-dire, ils ont reçu un don, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le garder pour eux-mêmes. Ce don doit nécessairement circuler. Voilà. Et ça ne peut pas être une marchandise.
Quelle est votre définition du don ?
Alors, deux choses. D'abord, le don, c'est l'acte, je crois, par lequel on reconnaît les autres personnes dans leur singularité. Lorsqu'on veut entrer avec elles dans une relation de personne à personne, c'est par le don qu'on les reconnaît, qu'on leur reconnaît de la valeur, en disant en quelque sorte, voilà, cela, c'est cela et pas autre chose que je donne à toi et pas à quelqu'un d'autre, à ce moment-ci et pas à un autre, et de cette manière-ci et pas d'une autre manière. Donc c'est un opérateur de reconnaissance et un opérateur de singularisation. Alors ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, le don c'est une manière de créer de l'amitié. Une des difficultés de la discussion sur ces questions du don, c'est que il y a tout un ensemble d'emplois du terme qui ne colle pas bien, pas directement avec ce que je viens de dire.
Par exemple.
Alors, par exemple, les sportifs passent leur temps à dire on a tout donné, on va tout donner. Bon. Au sein du sport, il y a beaucoup de dons, notamment dans la pratique du foot, dans les sports collectifs. Si les membres de l'équipe ne se donnent pas le ballon les uns aux autres, s'ils ne demandent pas le ballon, s'ils ne savent pas le recevoir, s'ils ne savent pas le rendre, ça marche pas. S'il n'y a pas de relation d'amitié entre les membres de l'équipe qui sont façonnés par les relations de dons, l'équipe ne marchera pas, aussi bon que soient les joueurs par ailleurs. Mais quand ils disent on va tout donner, on va se donner, c'est quand même à autre chose qu'ils font allusion. Et cette autre chose, je propose de le penser à travers la notion d'adonnement.
C'est quoi ?
Alors l'adonnement, c'est une manière de se donner, c'est une autre manière de dire on se donne complètement. On s'adonne, on peut s'adonner à un sport, on peut s'adonner à la marche à pied, à la course en montagne, on peut s'adonner à l'art, on peut s'adonner à la littérature, au cinéma, on peut s'adonner à la science.
On peut s'adonner à des vices aussi, non ? Ça va souvent. Non, mais ça va souvent.
Mais
oui,
tout à fait.
Ça va souvent avec le, oui, avec vice, ce verbe, non ?
Oui, mais oui, parce qu'en français,
c'est s'adonner à la drogue, s'adonner
à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà.
À beaucoup de choses.
Voilà. Oui, c'est-à-dire ce qui est particulier, c'est qu'en français, effectivement, s'adonner, c'est pris de manière négative. Et je propose de renverser les choses en disant, il faut avoir un usage plus général du terme s'adonner. On peut s'adonner à des choses qui soient utiles socialement, qui soient nobles, prestigieuses, l'art, le sport, la science, la vérité, la démocratie, tout ce qu'on voudra. Et il me semble que c'est précisément lorsqu'on ne réussit pas, pour différentes raisons, à s'adonner à des choses positives qui nous fassent grandir ou qui fassent grandir les autres, qu'à ce moment-là, on s'adonne au vice, à la drogue, à l'alcool, etc.
À propos de vice, le don, c'est une relation à trois ?
Oui.
Il y a celui qui donne.
Vous voulez m'entraîner où ça ?
Il y a celui qui donne, celui qui reçoit, et l'objet du don.
Oui.
On peut le dire comme ça.
On peut le dire comme ça.
C'est ce qu'a découvert peut-être le sociologue Marcel Mauss avec son grand livre Essai sur le don, paru en 1925. Oui. Il l'a peut-être pas découvert, mais en tout cas, il a.
D'une certaine manière, il l'a découvert. Alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est un ethnologue en chambre. Alors, il connaît énormément de choses, il parle 15 ou 20 langues, mais il n'a fait aucun terrain, c'est-à-dire il ne serait absolument pas recruté par une université aujourd'hui, on le mettrait à la porte instantanément. Alors que pourtant, il est la personne qui connaissait le mieux toute l'ethnologie de son temps, en lisant en anglais, en allemand, enfin, et c'est en rassemblant tout ce que l'ethnologie de son temps avait produit, qu'il découvre ce qui lui paraît être la forme sociale en quelque sorte originel. Il est plus prudent que moi. Il ne généralise pas autant, mais je crois qu'il faut aller au-delà et tirer tous les leçons de sa découverte. Et donc, il découvre le don comme la forme sociale première.
Chez Marcel Mauss, on voit bien qu'il y a une part à la fois conditionnelle et inconditionnelle dans le don.
Oui.
Expliquez-nous ce paradoxe.
Oui, ça nous met au cœur des ambiguïtés, des ambivalences du mot don. Le don ne peut pas résulter d'un calcul strictement rationnel. Si on s'imagine que les autres ne rentreront en rapport avec nous que si ça leur est utile et que nous-mêmes nous n'entrerons en rapport avec eux que si c'est nous est utile, que si nous faisons tous des calculs, ça pourra pas marcher. Rationnellement, la meilleure tactique supposée rationnelle, c'est de faire le pari que les autres sont, comme nous-mêmes, strictement intéressés, calculateurs, et que donc il faut se méfier d'eux. Bon, résumons, la seule tactique rationnelle, c'est la méfiance généralisée. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Mauss, il faut se défier à tous les sens du terme. Voilà. Donc, dans le don, il y a une dimension de pari et de saut au-delà du calcul strictement rationnel, d'anticipation, au-delà de la méfiance. On fait le pari que l'autre pourrait devenir un ami, même si pour l'instant, il semble être un ennemi. Voilà. Et ça, on ne peut pas le fonder rationnellement. Et pour montrer qu'il y a une dimension de pari, et pour vraiment sceller l'alliance, il faut qu'il y ait une dimension d'inconditionnalité. C'est-à-dire qu'on dit, ben je te le donne, je ne te demande rien. Ce qui veut dire, je sais très bien que ça pourrait ne pas revenir. Je sais très bien que tu pourrais ne pas me rendre. Donc cette dimension-là, elle est inconditionnelle. Et d'ailleurs, aucune relation humaine ne pourrait tenir sans cette part d'inconditionnalité. Si des couples passaient leur temps à se demander, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu restes avec moi parce que je fais bien la cuisine ou je sais pas quoi, ça marche pas. Donc le ciment du couple ou d'une amitié ou d'un pays, d'une nation, d'une certaine manière, c'est une part d'inconditionnalité.
C'est le don.
C'est le don avec cette dimension d'inconditionnalité. Mais en même temps, après on va basculer de l'autre côté, en même temps, il faut bien quand même que chacun y trouve son compte. Et là, une fois que le cadre général a été fabriqué par ce pari inconditionnel, dans ce cadre-là, il faut quand même que chacun trouve son compte. Et là, on peut commencer à faire les comptes.
Le regard du psychiatre François Lelore sur notre conversation.
Mais j'allais dire, ça donne à réfléchir. Mais pour nous, enfin, disons, en psychologie, en psychologie individuelle, si on parle du don gratuit, enfin, parce qu'il y a plein de sortes de dons, mais le don a priori, voilà, donner à un mendiant, enfin, donner à quelqu'un qui ne peut pas vous rendre, ou même qui ne vous connaît pas, et qui on ne gardera pas de lien, eh bien, il y a plein d'expériences de psychologie qui montrent que, par exemple, on est plus généreux, on est plus prêt à donner son aide, par exemple, à quelqu'un qui laisse tomber une pile de livres, quand on est de bonne humeur. Alors, il y a des expériences, vous savez, on fait passer aux gens des faux tests, où on leur dit, mais vous avez des tests, mais très, vous avez des résultats excellents, vous êtes dans les 5% de la population les plus intelligents, les plus doués en maths, par exemple. Et après, les gens sortent de l'expérience, ils croient que c'est vrai. Enfin, on démentira plus tard, hein, mais ils croient que c'est vrai. Et puis on les met face, alors soit un mendiant, soit quelqu'un qui fait tomber une pile de livres, etc. Et puis alors il y a d'autres gens à qui on dit au contraire, vraiment vos tests, c'est étonnant que vous soyez arrivé où vous êtes arrivé, parce que vos tests, vraiment, c'est pas très fameux. Eh bien, ceux à qui on a dit qu'ils avaient d'excellents résultats aident plus, donnent plus spontanément que ceux qu'on a déprimés avant. Et en gros, les événements heureux ont tendance à nous rendre plus généreux. D'ailleurs, les mendiants se mettent à la sortie des églises essentiellement au moment des mariages, enfin à ce moment-là. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire que donner nous fait du bien, mais encore faut-il être dans certaines conditions. Puis alors, autrement, il y a l'aspect un petit peu darwinien, c'est de dire qu'au fond, on a survécu parce qu'on a su s'associer en groupe. On n'était pas des très bons prédateurs, on était tout nus, on n'avait pas d'armes, et donc il fallait s'associer en groupe, et que là, effectivement, on a développé cette capacité d'empathie pour l'autre, d'échanger, et que ça fait partie de nous, finalement.
Vous pouvez réagir sur notre page Facebook. Alexia Rivière, Clara Marliot et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Claire Destacan. Et je vous propose d'écouter une chanson de 1979. Cette année-là, Apocalypse Now recevait la Palme d'Or à Cannes et disparaissait l'acteur Paul Meurice. Belle journée à l'écoute de France Inter. vient d'écouter Abba, Gimme Gimme.
Voulez-vous une bonne tasse de thé?
Mais qu'est-ce qu'il a à crier comme ça?
Juste une demi-tasse pour moi.
Grand bien vous fasse.
Je crois que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à la question du don avec le sociologue Alain Caillé, le psychiatre François Lelore et avec la complicité de Guillemette Audicino.
Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'économie, qui est de loin la plus efficiente, qui assure le meilleur retour sur investissement, c'est l'économie du don. C'est-à-dire quand vous regardez toute la partie des activités qui sont régies par l'ordre amical, amoureux, familial, etc. C'est-à-dire la situation où les gens sont dans un rapport de confiance tel qu'ils donnent sans compter. Les effets systémiques d'une situation où on donne sans compter produit un effet de richesse globale qui fait que chacun reçoit beaucoup plus que ce qu'il a donné.
Le philosophe Patrick Vivray sur France Culture en 2012. Alain Caillé, le don est donc un facteur de richesse?
Oui, très, très certainement. Très certainement, c'est un petit peu compliqué à montrer, à faire comprendre, parce qu'il faut changer le regard qu'on a habituellement. Un des grands problèmes qu'on a eu dans le travail que je mène avec mes amis depuis une quarantaine d'années dans le cadre de la revue du Mauss, c'est d'actualiser les découvertes de Marcel Mauss. Dans l'essai sur le don, Marcel Mauss, au fond, exhume ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre comme la structure centrale des sociétés archaïques. Mais on pourrait dire, c'est bien gentil, tout ça c'est l'histoire de sauvage, ça nous concerne de guerre. Et c'est faux, mais pour le comprendre, il faut s'apercevoir que nous vivons et basculons sans arrêt d'un registre à l'autre. Nous vivons dans deux types de rapports sociaux très différents, que j'appelle la socialité primaire et la socialité secondaire. Ce qu'on voit habituellement, c'est la socialité secondaire, c'est-à-dire ce qui se passe dans les entreprises, ce qui se passe dans les administrations, ce qui se passe dans le monde de la science, de la technique. Dans ce monde-là, l'efficacité des personnes est plus importante que ce qu'elles sont, que leur personnalité. On demande, si un salarié est sympathique, s'il est bien habillé ou gentil ou sympathique, tant mieux, mais on lui demande d'abord de faire son boulot correctement. Mais il y a un tout autre monde dans lequel nous vivons, Dieu merci, qui est le monde de la famille, le monde du couple, le monde de l'amitié, des camaraderies, le monde des petites associations en face à face, etc. Ça, c'est ce que j'appelle le monde de la socialité primaire. Et dans ce monde-là, la personnalité des personnes importe plus que ce qu'elles font. Au sein d'une famille, il faut bien sûr, il y a des fonctions à accomplir, il faut faire les courses, il faut sortir le chien, il faut descendre la poubelle, mais a priori, on reste ensemble parce qu'on apprécie les personnes au-delà des tâches qu'elles accomplissent. Si on dit ça, on s'aperçoit que ce que Mauss a découvert pour les sociétés archaïques, c'est-à-dire cette triple obligation de donner, recevoir, rendre, reste la force structurante de la socialité primaire. C'est à travers les relations de dons et de contre-dons que nous fabriquons nos amitiés, nos amours, nos relations sociales, etc. Une fois qu'on a dit ça, on peut revenir, là je vais rejoindre le propos de Patrick Vivray, on peut revenir au monde de l'entreprise, apparemment qui est un monde de recherche du profit et de l'efficacité, et on s'aperçoit que, bien sûr, c'est un monde dans lequel il y a des fonctions à accomplir, mais ces fonctions, elles sont accomplies par des personnes. Et si les personnes n'ont pas entre elles des relations d'amitié et de don et de contre-don, à ce moment-là, les fonctions ne seront pas accomplies. On le disait un petit peu tout à l'heure dans le cadre d'une équipe. Pourquoi est-ce que des équipes de 3e division, de nationale, arrivent en finale de la Coupe de France de football? Ça paraît incroyable. Ils sont moins bons techniquement, ils courent moins vite, ils sont moins résistants que les joueurs de 1ère division. Oui. Mais une année donnée, ils se sont adonnés à la passion du foot, et puis ils sont entre eux dans des relations d'amitié formidables. La même chose est vraie au sein d'une entreprise, ce qui ne peut marcher que si les gens se communiquent spontanément les informations qui sont nécessaires, soit des informations techniques, des tours de main, des savoir-faire, etc., soit des soutiens affectifs, tout simplement, quand il y en a besoin. À tel degré qu'on pourrait dire, et j'irai dans le sens de ce que disait Patrick Vivray tout à l'heure, qu'on pourrait presque dire que le taux de rendement, le taux de profit d'une entreprise est proportionnel à l'efficience des dons qui circulent au sein de l'organisation.
Alors le don fonctionne sur un trépied, donner, recevoir, rendre, mais en fait il y a un quatrième pied, oui, indispensable, oui. C'est le moment de la demande.
Absolument. Absolument, c'est ça, j'en suis venu à cette idée il y a une vingtaine d'années, parce que évidemment s'il n'y avait que le moment du don, du recevoir et du rendre, et si les dons qui étaient faits ne répondaient à rien, aucun plaisir à la personne qui les reçoit. Donc si ça ne satisfaisait aucun besoin, si ça ne répondait à aucun désir, à ce moment-là ça tomberait complètement à vide. quand on fait un don, on anticipe quand même que le don qu'on fait va plaire à la personne qui le reçoit. Alors, on peut se tromper, d'ailleurs, très souvent, on peut se tromper. Mais enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait cette anticipation. Donc, ce cycle que Mauss avait découvert, de la triple obligation de donner, recevoir et rendre, ne peut marcher qu'adossé sur un quatrième temps, qui est celui de la demande. Et la demande, c'est le moment de la reconnaissance du besoin qu'a l'autre, de son besoin, de son désir, de ce qui peut lui faire plaisir, etc.
Une demande formulée de façon explicite ou anticipée,
ou
devinée par celui qui donne.
Absolument, et le mieux c'est évidemment de le deviner sans que l'autre ait à s'humilier à le demander.
Ah voilà, ça c'est quelque chose qui me passionne, parce dans certains manuels de psychologie, on dit « oui, mais ce qui compte c'est l'expression de la demande ». Alors ce qui voudrait dire que celui qui a besoin ou qui a envie de quelque chose est obligé de, d'une certaine manière, effectivement, de s'abaisser à réclamer en disant « c'est comme ça ». Que tu vas me faire plaisir. Mmh. Alors que le don, il y a une part de presque de divination dedans.
Oui,
enfin,
il faut
deviner le besoin de l'autre, non ?
Absolument, absolument.
François Lelor.
Et souvent, c'est considéré comme une preuve d'amour. Quand les couples vont mal, souvent l'un des deux dit « s'il m'aimait vraiment ou si elle m'aimait vraiment, elle devrait le comprendre sans que j'aie à le demander ».
Absolument.
Et ça, à mon avis, c'est la phrase qui fabrique le plus de divorces au monde. C'est-à-dire que maintenant, il faut accepter que même quand on est avec quelqu'un depuis des années, on peut ne pas vraiment comprendre, tout en l'aimant, ce qu'il veut, et que, après tout, c'est normal de demander.
Alain Caillé, le don peut être la meilleure et la pire des choses. Comment faut-il, par exemple, interpréter cette phrase attribuée à Confucius ? Pourquoi me haïssez-vous ? Je ne vous ai pourtant rien donné.
Oui, c'est une très belle phrase. Malheureusement, elle n'est pas de Confucius. J'ai mené l'enquête, mais elle est très bien. Mais ça, là encore, Mauss l'avait très très bien mis en lumière dans un petit texte, d'ailleurs très étonnant, qui est complémentaire à l'essai sur le don, qui s'appelle « Gift, gift », et dans lequel Mauss montre que dans les langues germaniques anciennes, c'est le même mot « gift » qui veut dire à la fois le don, on le trouve encore en anglais, bien sûr, mais également le poison. Alors, ça peut paraître étrange.
C'est la dette.
C'est la dette. Alors, on peut dire, tiens, c'est un hasard. Non, c'est pas du tout un hasard, parce qu'on trouve la même double signification dans le grec ancien. Par exemple, dosis. Dosis, c'est la dose de poison. Le poison, potio, c'est la potion magique. C'est à la fois le médicament et le venin, et le poison qui tue. Alors, pourquoi ? Parce que, et c'est ce que montre, c'est la leçon principale de l'essai sur le don, et c'est là où on commence à entrer dans les complications de cette affaire de don, c'est que celui qui a reçu un don et qui ne peut pas rendre un don de valeur équivalente à terme, celui-là tombe sous la domination de celui qui a donné. Donc le don, c'est à la fois un opérateur de reconnaissance de la valeur des autres, qui les met à parité, c'est un opérateur presque égalitaire, mais si ça ne marche pas, si celui qui reçoit est trop faible pour pouvoir rendre à son tour, à ce moment-là, il tombe sous la domination, et on le voit dans le vocabulaire du don, dans le vieux français, on est l'obligé de celui qui a donné. Ça existe encore en portugais.
Et puis on connaît tous ce cas où l'on a donné à quelqu'un, où l'on a aidé quelqu'un, et puis qui vous tourne le dos, qui oublie que vous avez donné, et qui fait preuve d'ingratitude.
Oui. Ben oui, parce que la grosse complication des affaires de don, alors on le voit avec cette histoire, le double sens du mot gift, c'est à la fois soit un médicament, soit un poison, selon la façon dont c'est fait, selon le remède. Et pour compléter un petit peu le tableau, eh bien, il faut dire que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un opérateur de reconnaissance. Ça veut dire quoi, c'est un opérateur de reconnaissance ? Ça veut dire qu'on reconnaît à l'autre une certaine valeur. Mais en même temps, en reconnaissant à l'autre une certaine valeur, on affirme aussi la sienne. Donc c'est une aberration très compliquée. Je te reconnais de la valeur parce que moi j'ai de la valeur. Et tu as de la valeur parce que c'est moi qui te reconnais de la valeur et réciproquement. Donc c'est une opération terriblement ambivalente.
François Lelor.
Je pense, oui, dans ce que vous décrivez, Ali, effectivement, les gens qui vous tournent le dos après qu'on les ait aidés, je pense qu'il y a comme différentes sortes. Il y a les gens qui se sentent presque accablés par l'aide que vous leur avez donnée, qui se sentent incapables de la rendre et au fond qui préfèrent un peu disparaître de votre vie parce qu'ils ne savent plus très bien comment faire. Et puis il y en a d'autres, en revanche, qui, alors ceux peut-être un peu plus narcissiques, qui supportent mal quand c'est une imprimante que vous les ayez vus en situation d'infériorité. Donc ils préfèrent oublier ça. Et ça rappelle la phrase d'Oscar Wilde qui dit, vous savez, une bonne action ne reste jamais longtemps impunie.
Oui, c'est tout à fait ça.
Mais est-ce que c'est pas aussi des gens qui, en fait, ont du mal à se sentir débiteurs ? Enfin, parce que effectivement, quand quelqu'un a été généreux ou vous a donné quelque chose, vous êtes coincé, vous lui devez quelque chose.
Oui.
Est-ce que ça, c'est difficile? Enfin, c'est un problème c'est d'orgueil aussi,
bien
d'égo,
sûr,
quoi.
Bien sûr, bien sûr. Oui. On se sent comme le ministère, on se sent, comment dire, inférieur à celui qui a donné. Voilà. Du coup, il y a une règle du don qui avait été très bien mise en lumière par le philosophe Sénèque. Sénèque, premier siècle après Jésus-Christ, c'est le pédagogue, le maître à penser de Néron, et qui d'ailleurs est obligé de se suicider parce que Néron a des comptes à régler avec lui, justement, puisqu'il est débiteur de sang.
Parce que Néron a mal tourné.
ce Néron a très très mal tourné. Et Sénèque a écrit, de certaine manière, le premier traité du don. C'est un texte qui s'appelle « Des bienfaits ». Sénèque formule la loi du don de façon extraordinaire en disant « Il faut que celui qui a donné oublie immédiatement qu'il a donné quelque chose et que celui qui a reçu ne l'oublie jamais. »
Je précise la citation de Sénèque dans « Les bienfaits ». « Il ne faut pas dire le bien qu'on a fait, rappeler c'est réclamer. Il ne faut pas insister, pas rafraîchir la mémoire. Il ne faut rappeler le premier don qu'en faisant un autre. » Nous dit Sénèque. Il faut donner sans faire sentir sa supériorité de bon cœur. C'est
tout,
ça le.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est ça qu'il
voilà.
y a au cœur du don.
Oui.
Ne pas humilier. Ne pas faire perdre la face.
Absolument. Ne pas faire perdre la face. Et on voit bien, là, cette idée centrale, c'est que le don reconnaît de la valeur. Donc, parce que, vous savez, il y a toute une littérature qui se développe depuis une vingtaine d'années sur la lutte pour la reconnaissance. Parce qu'une autre entrée dans les discussions que nous avons, je crois qu'on pourrait généraliser, dire que nous voulons tous être reconnus. Donc, chacun veut que sa valeur soit reconnue.
Ça veut dire quoi, être reconnu?
Eh bien, justement. Alors, si on prend, par exemple, un philosophe allemand, Axel Honneth, il dit, ça veut dire trois choses. Ça veut dire on veut être aimé dans sa singularité, ça veut dire on veut être respecté en tant que citoyen à l'égal de tous les autres citoyens, et ça veut dire qu'on veut être estimé, on veut que notre contribution au travail soit appréciée. Bon. Mais je pense qu'on peut aller un petit peu au-delà et rejoindre Mauss à la question du don. Il me semble qu'on peut dire que nous voulons être reconnus comme des donateurs. Nous voulons voir notre générosité reconnue. On veut reconnaître que nous avons fait des dons qui ont de la valeur, ou que nous pourrions faire des dons qui ont de la valeur. C'est une première entrée là-dedans. Et puis, il y a une autre dimension qui renvoie à un double sens du mot don. Nous voulons être reconnus comme participant d'un élan de créativité, comme participant de la vie même, de la naturalité. Alors ça renvoie à un autre sens du mot don que je propose dans mon livre d'appeler la donation. Et ça n'est pas philosophique un peu.
François Lelore, de quelle façon la reconnaissance contribue à l'estime de soi?
Parce que en fait, on en revient toujours un peu à notre bagage, nous sommes des êtres sociaux élevés en groupe. Et effectivement, notre estime de nous-mêmes est très influencée par le regard que les autres portent sur nous. Ça se voit d'ailleurs dès la cour de maternelle, quoi, au fond. Et d'ailleurs, on montre également que, de même qu'on disait que se sentir de bonne humeur augmente la générosité, faire des actes gratuits, des bonnes actions un petit peu gratuites, augmente également, temporairement au moins, l'estime de soi. Donc on est dans l'ensemble, assez bien conçu pour donner et recevoir. Mais évidemment, il y a aussi après les personnalités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent avoir plus que les autres, quoi qu'il arrive, et qui n'ont envie de rien lâcher. Enfin, c'est-à-dire qu'on rêverait toujours d'une humanité peuplée de gens assez généreux, peu sensibles aux offenses et finalement assez préparés à la générosité. Mais malheureusement, le parcours de chacun, le tempérament fait que tout le monde ne joue pas le jeu, si j'ose dire.
Alain Caillé, au cœur du don, il y a la question de la gratitude.
D'ailleurs, vous remarquerez que en français, le mot reconnaissance, on parlait de reconnaissance tout à l'heure en disant, nous voulons être reconnus, nous cherchons de la reconnaissance. En français, ça veut dire aussi, on cherche de la gratitude. Mais c'est pas vrai dans d'autres langues, c'est pas vrai en anglais ou en allemand, par exemple. Mais pour faire écho à ce que disait François Lelore à l'instant, on voit bien à partir de cette entrée sur la question du don, on avait quatre moments tout à l'heure. Pas seulement trois, pas seulement donner, recevoir et rendre, mais demander, donner, recevoir et rendre. On voit bien comment on peut distinguer quatre types de personnalités. Si les gens ne savent pas gérer l'ensemble du cycle, c'est-à-dire passer d'un moment à l'autre, ne savent pas être tantôt donateur, tantôt demandeur, tantôt receveur, etc. On voit bien qu'il y a des gens qui sont bloqués dans un élément du cycle. Il y en a qui sont toujours dans la demande. Il y en a qui veulent absolument écraser leur don, qui veulent être donateur, qui supportent pas de recevoir quelque chose. Il y en a qui veulent, au contraire, recevoir, et il y en a qui veulent toujours garder, qui ne veulent jamais rendre. Alors ça, c'est une première entrée. On voit bien comment, et là je me tourne vers le psychiatre, on voit bien comment il y a des troubles psychiques qui peuvent se créer par une mauvaise insertion dans le cycle du don, dans le rapport avec les autres. Et puis alors après, si ça se passe vraiment mal, on peut basculer dans le cycle inverse. Ce premier cycle, demander, donner, recevoir, rendre, c'est ce que j'appelle le cycle symbolique, celui qui marche bien. Celui qui, symbole, ça vient du grec, être ensemble, on est ensemble, ça marche bien. Si ça marche pas bien, on bascule dans le cycle diabolique. Diabolique, c'est la séparation. Et là, on voit bien comment tout se renverse. Au lieu de demander, on dit, on ignore. Je ne vous connais pas, j'ai rien à faire avec vous. Voilà. Donc, le premier temps, c'est pas demander, c'est ignorer. Au lieu de donner, on prend. J'ai pas besoin que vous donniez quoi que ce soit, de toute façon, je vais vous le prendre. Troisième temps, au lieu de recevoir, on refuse. Comme les adolescents, à un certain âge, ils veulent rien recevoir de leurs parents, ils refusent. Et puis, le quatrième moment, ben, au lieu de rendre, on garde, effectivement.
J'avais du soleil. J'avais du soleil. Impression, soleil levant. Un frisson à l'éveil du vent. Les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits. Marrakech, El Koutoubia. J'avais du soleil. J'avais du soleil. J'avais du soleil. Les bimbotocs, les filles belles. Les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur Malora. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura Malora. J'avais du soleil. J'avais du soleil. J'avais du soleil. J'aime le soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et lui soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable. Allongé sur son drap bleu. J'avais du soleil. 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 J'avais du soleil.
Alain Souchon, Jaloux du soleil.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et en cette semaine de Noël, on s'intéresse à la question du don avec le sociologue Alain Caillé, le psychiatre François Lelore. François Lelore, vous vouliez revenir sur la typologie des personnalités établies avant le disque par Alain Caillé.
Oui, je trouve passionnant cette idée que les quatre composantes, je parle sous le contrôle d'Alain Caillé, donc qui sont demander, donner, recevoir et rendre, on peut réfléchir chaque personnalité peut avoir des problèmes sur chacune de ses composantes. Par exemple, la première demander, je pense, vous savez, on dit par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas demander, qui n'osent pas demander, qui se sentent ne pas mériter de demander. Et ça me fait penser, on voit souvent des articles sur le fait que beaucoup de gens qui pourraient bénéficier de certaines aides sociales ne les demandent pas. En fait, une part très très importante ne les demande pas. Et de même, dans le couple, parfois, on ne demande pas, toujours, je reviens avec le présupposé, s'il me comprenait, ou elle me comprenait, je n'aurais pas besoin de demander, ce qui est une grande erreur.
Il y a 28 ans, Reynald rencontre Jean-Marie au lycée.
Ça va, toi ? Ouais, super.
Immédiatement, c'est le coup de foudre amical entre eux. Mais depuis 3 ans, un nouveau lien les unit, physique cette fois, un rein. Jean-Marie a donné le sien à Reynald.
Je ne crois pas que je l'aurais fait peut-être pour quelqu'un d'autre, quoi. Lui, c'était une évidence. Je voulais pas me retrouver dans son cercueil et puis il dit j'ai rien fait. Ça, c'était hors de question. Parce que pour moi, je ne lui ai pas sauvé la vie, je l'ai prolongé.
Prolonger la vie d'un ami en donnant un organe de son vivant, c'est possible depuis 2011. Une obligation, être compatible. Mais pour eux, dès le premier test...
Tout était vert, c'était un truc incroyable. Ils ont mis effectivement, alors je ne connais pas les termes exacts, mais nos cellules ensemble, effectivement, elles arrivaient à cohabiter avec finalement très peu d'anti-rejet. Chaque jour, en fait, on sent que le corps, il se passe quelque chose, quoi. Enfin, vraiment, une pêche d'enfer. Voilà, c'est notre histoire. Et moi, je l'aime bien, notre histoire. Ouais, mais...
Un extrait du JT de France 2 en 2019. Alain Caillé, je rappelle que vous venez de publier Extension du domaine du don. Le don d'organes, de son vivant, c'est un don de soi assez extraordinaire. Aurélie nous dit « Je peux témoigner du don d'organes du vivant car j'ai donné ma moelle en 2009. Ce fut l'expérience du don absolu pour moi. J'avais une chance sur 1 million d'être compatible avec une personne ayant besoin d'une greffe de moelle. En France, le don est gratuit et anonyme. C'est important de le dire, redire et puis rassurer les gens. En 2011, l'établissement français du sang m'a recontacté pour un deuxième don de lymphocyte pour le même receveur. Ce fut tellement évident de le faire. J'ai encore l'impression d'avoir plus reçu que d'avoir donné à Alain Caillé. »
Oui, sur le don d'organes, je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'en fait, il y a des expériences qui me semblent très très contrastées. Certains receveurs veulent connaître l'identité du donneur, d'autres pas du tout. Certains sont hantés par la personne du donneur. En tout cas, on voit bien en tout cas qu'il y a un lien entre l'organe donné et la personne. Et, Mousse le disait, donner, c'est toujours donner quelque chose de soi. Mais ça fonctionne de façon très, 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 très variée. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est ce que vous disiez à la fin, c'est que très souvent, lorsqu'il s'agit de don de rein ou d'un organe, c'est fait avec une extraordinaire spontanéité.
Et quand on accepte le don d'organes, on rendra sous d'autres formes. Je cite par exemple le professeur de philosophie Philippe Barrier, qui a reçu une double greffe rein-pancréas, et il écrit que la greffe m'oblige à rendre activement hommage à la vie.
Oui, tout à fait. Et on voit bien que là, le don, c'est aussi un don à la vie. C'est ce que j'essayais un petit peu de dire tout à l'heure, c'est pas seulement un don à l'autre, c'est un don à la vie. Mais sur la question des dons d'organes, là où c'est intéressant, c'est que parfois, il n'y a pas de compatibilité entre, par exemple, entre un mari et une femme, etc. Et donc, il s'est installé tout un système de mutualisation des organes. Par exemple, un mari qui pourrait donner son rein à sa femme, il ne peut pas le donner à sa femme parce qu'elle ne peut pas le recevoir, ils sont incompatibles, il le donne à cette association, ça va bénéficier à quelqu'un d'autre, et sa femme, elle, pourra bénéficier du rein de quelqu'un d'autre.
François Lelore.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux cas assez différents. Il y a le don... un donneur vivant, quoi, qui donne un rein. Enfin, il y a des organes qu'on peut donner en restant vivant. Donc là, on peut comprendre que on peut avoir un sentiment de reconnaissance ou au contraire se sentir un petit peu hanté par l'idée que quelqu'un de vivant vous a donné son rein et ça suppose, c'est un don un peu qui vous sauve la vie. Et puis il y a aussi le don reçu d'un donneur décédé dans un accident. Et on entend effectivement des gens dire, bah, évidemment, la reconnaissance envers le donneur décédé, ben, il est décédé, le malheureux. Mais qui après, on a l'impression qu'on leur a donné, comme que la société, que le monde, que les autres leur ont fait un don d'avoir prolongé leur vie et qui se sentent obligés au moins de la bien utiliser, enfin, qui ont quand même envie, quatrième étape, de rendre. Même si on peut pas rendre précisément la personne qui les a donnés.
Tout à fait.
Alain Caillé, au fond, pourquoi certains rechignent à donner?
Ben, probablement pour les raisons que disait en partie François Lelore, hein, parce qu'on ne veut pas se sentir redevable. Ben, je pense que c'est la bonne question, à vrai dire.
Merci.
Je ne suis pas sûr d'avoir absolument la réponse. Mais parce que pour les économies, si vous voulez, on ne donne pas. La logique, c'est de ne pas donner, c'est simplement de calculer, d'essayer de recevoir. Et donc, ils se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on donne malgré tout? Et je pense qu'il faut prendre la question à l'envers et dire que les humains ont plutôt envie de donner, pour différentes raisons. D'abord, parce qu'on est une espèce coopérative au départ. C'est ce que disait François Lelore tout à l'heure. Et puis, parce que on veut participer du mouvement de la vie, on veut avoir des amis, etc. Donc, la logique, c'est de donner. Et la bonne question, c'est pourquoi est-ce que certains ne veulent pas donner? Très certainement par peur d'être endetté, par peur d'être pris dans des relations de don contre don, qui sont des relations compliquées, parce que c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est ambivalent, le don. Le marché, on achète quelque chose, c'est simple. Je veux quelque chose, j'ai payé, c'est fini. Si on doit passer par le don pour obtenir quelque chose avec les autres, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué.
Ça crée des problèmes d'attachement, quoi.
Ça crée des problèmes d'attachement.
Alors, le domaine du don est beaucoup plus large qu'on ne le croit, et vous consacrez un chapitre passionnant dans votre livre au jeu. Que vient faire le jeu dans un livre sur le don ?
Ben, parce que je pense que ça fonctionne, en fait, de la même manière. Alors, je pense que c'est très intéressant, puisque au départ, ça paraît totalement antithétique. On a l'impression que le don, c'est quelque chose de sérieux, de grave, etc. Le jeu, c'est frivole. Or, c'est pas du tout le cas. Alors, dans ce chapitre sur le jeu, je fais référence à un auteur très important qui s'appelle Huizinga, qui a écrit un des deux plus grands livres sur le jeu, qui s'appelle Homo Ludens, l'homme qui joue. Et la thèse de Huizinga, c'est que toute la culture s'est développée sous la forme d'un jeu. C'est-à-dire une manière de rivaliser avec les autres en s'amusant à se poser des devinettes, à se poser des défis, etc. Donc la culture, au départ, c'est un jeu. Et il fait référence très directement à l'essai sur le don de Marcel Mauss en disant tout ça, c'est la même origine. C'est cette manière, là encore, de rivaliser pour devenir ami. Pour rivaliser, pour devenir ami. On devient ami pourquoi ? Parce qu'en rivalisant avec l'autre, on participe à la vie même, au mouvement de la vie. On devient plus vivant, plus productif, dans le jeu ou dans le sport, par exemple au tennis ou n'importe quoi. On a besoin de l'autre pour faire des jolis coups, il faut qu'il renvoie des belles balles, il faut qu'il essaie de vous battre pour qu'on puisse, en essayant soi-même de le battre, faire des coups magnifiques. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient ami.
C'est parti toujours, c'est parti encore, c'est parti, allez-y les gars.
Magnifique,
allez-y,
magnifique.
Entre les poteaux, entre les poteaux.
La voix extraordinaire du commentateur de rugby, Roger Coudert, qui donne tout quand il commande, parce que sur le terrain, les joueurs donnent tout. Le 15 de France donne tout.
Absolument, merci de ce commentaire, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on avait presque plus de plaisir à le... On aurait presque plus plaisir simplement à l'écouter qu'à même regarder la télévision avec un commentaire plat.
Il rend, là.
Il rend totalement. Et il s'adonne, il est dans l'adonnement total.
François Lelore.
Oui, j'écoutais ce que disait Alain Caillé sur le jeu et sur le sport, et effectivement, on donne dans le jeu ou dans le sport, on peut tout donner, mais plus on donne, plus on risque évidemment de ne rien recevoir. C'est-à-dire que si on se donne entièrement une partie mais qu'on perd, par exemple, on se dit, ben mieux aurait valu m'économiser, en quelque sorte. Donc, le jeu suppose là aussi une part de risque. Donner, c'est quand même risque de perdre. Et il y a des gens qui sont toujours hantés par le risque de perte, c'est-à-dire de diminuer ce qu'ils ont, de ne pas avoir de reconnaissance, etc., qui se préfèrent garder.
Ça s'appelle être mauvais joueur. Alors voilà, ça peut être mauvais joueur dans la vie en général aussi.
Donc on peut être mauvais joueur ou mauvais donneur, etc. Oui. C'est finalement, j'essaie de montrer que c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que regardant les choses sous cet angle-là, on voit apparaître des aspects un peu méconnus. Bon, il m'arrive de dire que, par exemple, l'abbé Pierre ou Mère Teresa sont d'excellents joueurs. D'excellents joueurs du don. Voilà, c'est des grands sportifs, c'est des sportifs de haut niveau.
Et la charité dans tout ça, quand on donne une pièce dans le métro à un mendiant, c'est ambivalent comme geste. Parce que ça peut humilier.
Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend. En même temps, le mendiant accepte l'humiliation par hypothèse.
Mais il faut réfléchir peut-être à la manière dont on donne. Donner, c'est bien, mais il faut réfléchir à la manière dont on reconnaît celui qui est en demande.
Oui, tout à fait. Mais alors, on parlait de l'abbé Pierre un instant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le mythe d'origine d'Emmaüs créé par l'abbé Pierre. C'est formidable sur cette question du don. Parce qu'il explique qu'il le crée après avoir recueilli un ancien camarade de captivité pendant la guerre qui venait de faire une tentative de suicide. Il le recueille, et puis il dit, et tout à coup, je décidais de faire le contraire de la charité. Je lui dis, finalement, tu n'as qu'une envie, c'est de mourir. Je pourrais t'aider, mais ça ne servirait strictement à rien. Viens plutôt m'aider. Viens plutôt m'aider à aider les autres. Et à la fin de sa vie, le camarade de captivité en question dit à l'abbé Pierre, je cite de mémoire, n'importe quoi que vous m'auriez donné, je me serais tué à nouveau. C'est le fait qu'il lui ait demandé de donner quelque chose qui lui a permis de vivre. Donc le don véritable, c'est le fait de donner à l'autre la capacité de donner à son tour.
Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du don inconditionnel, sans retour ? Je crois que Jacques Derrida défendait cette idée-là. Pour vous, c'est immoral. Pourquoi ?
J'ai pas dit que c'était immoral, même si, en fait, je pense, mais bon, vous avez bien lu.
Pourquoi?
Non, je pense surtout que c'est absurde. Je pense que c'est absurde parce que vous connaissez la grande thèse de Derrida, philosophe peut-être le plus célèbre au monde, sur cette question du don. Il dit, si je donne, alors je ne donne pas. Il veut dire par là que si je donne, ça veut dire que je sais que je donne. Si je sais que je donne, je me regarde en train de donner. Si je me regarde en train de donner, c'est donc que j'ai une gratification narcissique et donc c'est pas vraiment du don. Donc il y a derrière l'idée que le don doit être radicalement sans motif. Voilà. Et c'est absurde. Il peut pas y avoir d'acte humain qui soit absolument sans motif. La question, c'est celle des motifs, justement, qui nous anime. Bien. Si le motif du don, c'est un motif d'amitié, d'alliance, de reconnaissance, de créativité partagée, de vie, ben alors c'est très bien. Voilà. Et sans ça, parce qu'on pourrait aller vers des absurdités encore plus grandes que celles de Derrida. Dans le même registre philosophique, Jean-Luc Marion explique que pour qu'il y ait vraiment du don, il faut qu'il n'y ait pas de donateur, pas d'objet donné et pas de personne qui reçoit.
Bon,
ça devient très très compliqué.
Allez, on continue à s'intéresser à la question du don. Réagissez sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Et je vous propose d'écouter Pomme, les cours d'eau. Interpréter les cours d'eau.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on s'intéresse encore quelques minutes à la question du don avec le grand sociologue Alain Caillé et avec le psychiatre François Lelor. Conclusion, Alain Caillé, comment prendre le temps de donner dans une société qui accélère, une société liquide, sans formalise, une société où les liens se font et se défont très vite, une société hyper narcissique, hyper individualiste. Comment on fait?
Mais vous avez tout résumé, c'est difficile.
c'est très difficile.
C'est très très difficile.
Je veux juste signaler tout de même que vous êtes le créateur d'un mouvement qui s'appelle le mouvement convivialiste.
Oui.
Qu'est-ce que c'est en quelques mots?
En quelques mots, c'est un mouvement qui réunit pour l'instant principalement des intellectuels alternatifs à travers le monde. Il y en a quand même un certain nombre qui viennent d'horizons idéologiques très très variés, disons de la gauche au gauche, de gauche au centre droit, mais qui se mettent face à l'urgence qu'il y a à répondre à la question que vous posez. Comment on fait, justement, pour éviter d'être happé par le maelstrom de l'accélération généralisée? Comment on fait? Eh bien, donc, ils se mettent d'accord sur quelques valeurs centrales, partageables, si possible universalisables, avec l'idée que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, si on veut surmonter l'hégémonie du néolibéralisme, ce qui nous manque le plus, c'est finalement une philosophie politique, au sens très large du terme, une philosophie politique alternative aux grandes philosophies politiques dont nous sommes les héritiers, socialisme, libéralisme, communisme, anarchisme. Anarchie, c'est pas qu'elle soit totalement périmée, mais manifestement, il y a un truc qui ne répond plus, il y a un truc qui va pas, voilà, c'est ça, pour le dire très simplement.
Ça marche pas,
voilà.
Comme on dit.
Voilà. Et donc,
dans les applications concrètes du convivialisme.
Oui, ben, application concrète, on pourrait aller dans le sens de ce que vous disiez, réinventer des sociétés davantage localisées, avec un principe de subsidiarité, on fait sur place on peut faire, on achète ailleurs uniquement ce qu'on ne peut pas faire sur place. Déjà ça, c'est fondamental. Il y a pas mal d'expériences qui vont dans ce sens-là. Et puis bien sûr, l'autre aspect fondamental, c'est la lutte contre ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, c'est-à-dire l'illimitation, le désir de toute puissance dont notre monde est l'apogée, en quelque sorte. Hein. Et le néolibéralisme et l'apogée, je retrouve le même mot, ça veut dire lutter contre des explosions d'inégalités absolument vertigineuses. Alors là, il y a tout un ensemble de mesures qu'on peut détailler.
Conclusion, François Lelore.
C'était passionnant d'entendre Alain Caillé, et surtout sur l'idée que le don, finalement, est un facteur d'équilibre dans la relation, quand il est bien donné, bien reçu. Et c'est vrai qu'on donne plus facilement entre égaux, ou pas trop inégaux, parce qu'autrement, ça crée des problèmes dans la relation. Et ça revient sur le thème du bonheur, où, en gros, les gens sont plus heureux dans les sociétés assez égalitaires.
Oui, absolument. Ça c'est bien montré.
Guillemette Odissino.
Juste un film à conseiller qui illustre ce magnifique sujet, c'est Les Invisibles de Louis-Julien Petit. Il est disponible maintenant sur Canal+, partout. Hein, il est trouvable partout. C'est vraiment exactement ce que vous disiez à propos de l'abbé Pierre. C'est un accueil de jour qui accueille des SDF femmes, qui va aller un peu de manière alternative et un peu contre la loi devenir un accueil de nuit, et surtout aider ces femmes SDF qui n'ont plus de CV, qui n'ont quasiment plus d'identité, à reprendre l'estime d'elles-mêmes, à se souvenir qu'elles avaient des dons, qu'elles avaient des talents. Et en fait, c'est comme ça qu'elles sont aidées, c'est parce qu'elles se mettent elles-mêmes à donner, se mettent elles-mêmes à faire des choses et à exister à nouveau. Donc le cycle là, de la demande et de rendre et tout, il y est dans ce film.
Merci.
Les Invisibles.
Merci beaucoup Alain Caillé d'être venu ce matin. Extension du domaine du don, sous-titré Demander, donner, recevoir, rendre, c'est publié chez Actes Sud. Merci beaucoup François Lelore, on peut lire avec profit la réédition de votre livre avec Christophe André, L'estime de soi. Merci Guillemette Odissino. Et demain, nous recevons le grand historien Michel Pastoureau qui nous racontera l'histoire de la couleur jaune.